Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice n'est pas si éloigné du sujet qu'on évoquait maintenant, puisqu'on va parler de l'ère de la post-vérité cette semaine, Brice.
Oui.
Alors vous avez récolté pour nous ce matin quelques nouvelles et des nouvelles troublantes.
Un sapin de Noël se demande ce qu'il a bien pu faire pour finir dans une poubelle. Ou encore, devant l'incapacité des instituts de sondage à prévoir quoi que ce soit, le ministre de l'Intérieur a décidé de convertir leurs locaux en centre d'accueil des migrants. J'aime également beaucoup celle-ci, sortie quelques jours avant les élections présidentielles aux États-Unis. Le parti républicain envisage de remplacer Donald Trump par un clown tueur. Depuis peu, depuis déjà un peu ancien, celle-ci, Michel Field reconnaît une maladresse après avoir uriné sur une motion de défiance des salariés de France Télévisions. Beaucoup plus récent, celle-là. Pour lutter contre l'automatisation des emplois dans l'industrie, Donald Trump envisage de déporter massivement les robots au Mexique. Alors, vous l'avez deviné, ces quelques perles ont été pêchées sur des sites satiriques, en l'occurrence le Gorafi français et son équivalent britannique New Thumb. Nous avons pris l'habitude de ces parodies d'informations. Elles adoptent la forme d'un communiqué, d'une brève, mais leur énormité les fait reconnaître immédiatement pour des impostures. Personne ne peut les prendre au sérieux. Personne, vraiment ? Je me souviens qu'un des rédacteurs du tabloïd américain Weekly World News confiait dans une interview « Nous savons qu'un certain pourcentage de nos lecteurs prennent nos délires hebdomadaires pour des faits avérés ». Il faut dire que ce titre, disparu aujourd'hui, utilisait des montages photographiques comme dans le cas de ce B-52 disparu pendant la guerre du Vietnam et qu'un astronome était censé avoir repéré et photographié sur un cratère lunaire. Il y a une sorte d'erreur stupide que seuls commettent les gens intelligents, écrit cette semaine dans The New Statement, Laurie Penny. C'est la conviction qu'il suffirait d'établir sobrement les faits pour l'emporter dans un affrontement avec un mensonge facile et réconfortant. Dans le cas d'une campagne électorale telle que celle que nous vivons en France, en donnant par exemple sobrement les chiffres, par exemple le coefficient de Gini mesurant les écarts de revenus et son évolution au cours du temps. Mais nous sommes entrés, écrit Laurie Penny, dans une nouvelle époque du débat politique, une époque que nombre d'experts ont sous-titré « l'âge de la post-vérité ». Moi, je préfère la penser comme l'âge des foutaises, « the age of bullshit », écrit-elle.
Alors c'est vrai que depuis la victoire du Brexit, depuis l'élection de Donald Trump, il y a deux résultats électoraux qui ont surpris les experts, c'est vrai. On a cette expression post-truth, post-vérité qui a fait une entrée fracassante dans le vocabulaire journalistique. Et pourtant, le fait que des victoires électorales aient été obtenues grâce à des mensonges ou à des promesses intenables, c'est pas vraiment une nouveauté. On a des exemples sous les yeux. Alors pourquoi parler de post-vérité plutôt que de boniment, plutôt que de mystification, Brice ?
Eh bien, Florian, il y a 12 ans, paraissait un livre intitulé en anglais « L'ère de la post-vérité, malhonnêteté et tromperie dans la vie contemporaine ». Son auteur, l'essayiste américain Ralph Case, est un spécialiste de l'analyse sociale du langage, un traqueur d'euphémismes et d'expressions toutes faites. Il résumait ainsi le propos de son livre. « Autrefois, nous avions la vérité et les mensonges. À présent, nous avons la vérité, des mensonges et des énoncés qui peuvent ne pas être vrais, mais que nous considérons trop inoffensifs pour les appeler faux. L'euphémisme foisonne. Nous économisons la vérité. Nous proférons des vérités améliorées. Le terme « to deceive », tromper délibérément, fait place à tout spin, manipuler, faire de la com. Nous ne voulons pas accuser les autres de mentir, alors nous disons qu'ils sont dans le déni ou que la vérité leur est temporairement inaccessible. Case écrivait aussi « dans la post-vérité, les frontières entre la vérité et le mensonge, entre l'honnêteté et la malhonnêteté, la fiction et la non-fiction se brouillent ». Il avait repéré l'usage de cette rhétorique nouvelle dans bien des domaines, celui bien sûr des spin doctors, chargés par les dirigeants de leur fournir de belles histoires afin d'amuser le public, tandis qu'ils sont censés s'occuper eux des affaires sérieuses, celui des universitaires postmodernistes, acharnés à déconstruire la croyance naïve en la possibilité de parvenir à une quelconque vérité, celui des nouveaux psychothérapeutes encourageant leurs patients à se mentir à eux-mêmes en construisant un récit de leur vie positif et valorisant. Tout le monde a pris l'habitude de mentir à tout le monde, constatait-il. Et le résultat, c'est que nous sommes entrés dans une société de méfiance. Car, je cite Keyes, « lorsque tant d'entre nous colportent des fantaisies présentées comme des faits, la société perd ses assises ». Bien des analystes font à présent le même constat que lui. Nos sociétés libérales, où les instances d'autorité et de contrôle ont été strictement cantonnées, reposent sur le crédit que nous pouvons nous accorder réciproquement. Si nous avons l'impression qu'un grand nombre de participants au jeu social trichent, qu'ils diffusent des fausses informations afin d'améliorer leur situation personnelle, eh bien, nous adopterons nos propres comportements. En conséquence, personne ne veut être le dindon de la farce sociale. Une étude publiée l'an dernier par l'agence de relations publiques américaine Edelman relève que les démocraties sont confrontées à une crise inédite de la confiance envers les élites et les médias traditionnels. Et cela se traduit électoralement par une poussée de populisme.